nous sommes réunis ici pour entendre le père Gérard Billon, qui est responsable du service biblique catholique Évangile et Vie, également enseignant à l'Institut catholique de Paris, et monsieur le professeur Stéphane Munteanu, qui est professeur d'hébreu biblique et de théologie biblique à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Voilà. Donc, tous deux ont été profondément impliqués dans le travail de préparation de la nouvelle édition de la TOB. Voilà. Et ils vont nous parler ce soir de la nouveauté de la TOB dans son édition 2010. Voilà. Avant de leur donner la parole, je vais vous redonner deux informations de la part de l'association œcuménique. Alors, d'une part, à la sortie, donc sur la table qui est à droite, vous trouverez quelques pages de la revue Sens. Vous pouvez les prendre, tant qu'il y en a. Elles nous ont été aimablement données, fournies, par nos amis de l'amitié judéo-chrétienne de France. Alors pourquoi aujourd'hui ces feuilles? Parce que les premiers paragraphes, les premières pages, traitent d'une question qui a été abordée par ceux qui ont travaillé, des équipes qui ont travaillé sur la nouvelle édition de la TOB. Il est question dans ces pages du quatrième évangile, l'évangile de Jean, et de la traduction du terme juif en grec. Je ne le dirai pas en grec, je n'en ai pas fait, j'aime autant rester en vous disant juif, entre guillemets, le mot grec a plusieurs traductions possibles, et ça a été demandé par l'amitié judéo-chrétienne et pris en compte par les équipes travaillant sur la TOB. Donc vous pourrez prendre ces feuilles. Par ailleurs, j'ai à rappeler deux dates. Le week-end du 21-22 mai, une retraite organisée par l'association œcuménique, mais qui est ouverte à tous, non loin d'ici, à l'abbaye de Saint-Louis-du-Temple, à Vaux-Allant, pour voir les choses. Il est encore possible d'y participer. Et sur la table, il y a aussi des bulletins, si quelqu'un était intéressé. Vous le prenez, vous le remplissez, et voilà. Bon. Deuxième information de l'association œcuménique, le 2 juin, jour de l'Ascension, à 17h30, il y aura ici à Bourg-la-Reine, au temple rue Ravon, une cérémonie œcuménique à laquelle vous êtes conviés, et bon, que le bouche à oreille fonctionne si possible, ce serait intéressant pour nous qu'on soit nombreux autour. Des jeunes, notamment, il y aura des scouts autour d'eux. Voilà. Donc, je vous dis bonne écoute et je donne la parole à nos conférenciers.
Merci. Alors, pour cette conférence à deux voix, nous nous sommes répartis un petit peu le travail, nous allons alterner. Je suis chargé dans un premier temps de vous rappeler une brève histoire de la traduction œcuménique de la Bible. Et je vais partir d'assez loin, je vais partir du début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, en France, puisque j'ai parlé d'une traduction française, vous aviez principalement deux grande traduction scientifique. La première est due à M. Louis Segond, c'est la Bible Segond, elle nous vient de la tradition protestante, et la deuxième vient du chanoine Crampon, et c'est une traduction catholique. Je donne ces deux traductions-là parce que ce sont les deux premières traductions qui ont, dans un souci scientifique, désiré retourner au texte hébreu. Avant le chanoine Crampon, en catholicisme, nous étions tenus de traduire le texte latin de la Vulgate. Le chanoine Crampon était le premier à retourner au texte hébraïque pour l'Ancien Testament et grec pour le Nouveau. Nous avions donc ces deux grandes traductions. Vous aviez, mais je ne fais que l'évoquer, vous aviez en milieu juif ce qui est encore aujourd'hui la traduction du rabbinat, c'est-à-dire la traduction faite par une petite équipe autour du rabbin Zadok Kahn. Début du XXe siècle, Kahn, second Crampon. Au cours du XXe siècle, vous avez deux grands ou trois grands mouvements qui agitent les sphères religieuses. En catholicisme, nous sommes malheureusement dans une période d'énorme tension, avec un problème, le mot peut-être vous dira quelque chose, ce qu'on appelle la crise moderniste. C'est-à-dire ce souci qu'avait un certain nombre de biblistes, d'historiens, de pasteurs, de dialoguer avec le monde, et une réaction, j'allais dire, identitaire en particulier de la part de Rome, qui disait que c'était se compromettre. Je caricature un peu les choses, et vous avez une figure qui fut professeur à l'Institut catholique de Paris, qui s'appelle Alfred Loisy. Le nom dit quelque chose. Et c'était un grand bibliste. Vis-à-vis de Alfred Loisy, vous avez un autre grand personnage dont on parle toujours, enfin dont le procès est en béatification, qui s'appelle le père Marie-Joseph Lagrange. Le père Lagrange, dominicain, fondateur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Et si je cite le père Lagrange, c'est parce qu'il symbolise bien quel était le problème des catholiques devant la Bible. En 1890, le père Lagrange fait un séjour dans le Sinaï. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé par là-bas, ou si vous êtes allé en Judée. Il parcourt le Sinaï, et père Lagrange, comme tous les catholiques, et sans doute encore un certain nombre de gens aujourd'hui, pense que ce qui est écrit dans la Bible, ben, ça s'est passé comme c'est raconté. Or, la Bible nous dit que vous aviez 600 000 hommes, dans le livre des nombres, sans compter les femmes, les enfants et les troupeaux. Et Père Lagrange dit qu'effectuant son voyage, voyant le terrain tel qu'il était, repérant les ouèdes, les points d'eau, etc., il se dit qu'il y avait une contradiction absolue entre le terrain et le texte. Mais comme en catholicisme, je pense que c'est vrai pour l'orthodoxie, le texte est inspiré et qu'en conséquence il ne peut pas se tromper, il devait y avoir une voie qui tienne compte à la fois des problèmes du terrain et d'autre part qui tiennent compte de la vérité du texte biblique. Autrement dit, c'est la question de la vérité qui s'est déplacée. Ça, c'est le père Lagrange. Le père Lagrange a donc toujours essayé de permettre dans l'étude de la Bible d'avoir les meilleurs outils en philologie, en histoire et en archéologie. Le père Lagrange a vécu jusque vers la fin des années 30. Quelques-uns de ses successeurs à l'école biblique de Jérusalem, à la fin des années 40, qui avaient bénéficié de l'enseignement du père Lagrange, qui avaient aussi remarqué que les protestants avaient l'excellente traduction de Louis II, que celle du chanoine Crampon pouvait être améliorée, se sont dit, le temps est sans doute venu de traduire la Bible à nouveau frais. Fin des années 40, ça va donner la Bible de Jérusalem. D'abord paru en fascicule, puis en un seul volume en 1956, et pour la première fois en catholicisme, c'était une traduction assortie de notes très développées. À la fois des notes historiques, archéologiques, théologiques. Les dominicains de l'école biblique de Jérusalem se sont rendus compte que cette traduction était toujours améliorable. Première édition 1956. Puis on engage une révision de cette traduction. Et j'en viens, donc ça c'est le mouvement biblique. Par ailleurs, et je le donne en passant, dans les paroisses catholiques, grâce en particulier à Pie XII, commencent à se développer des cercles bibliques, des ancêtres des groupes bibliques. Dans le même temps, vous avez, dans le monde, mais en particulier en France, vous avez le développement écuménique. Alors c'est le père Portal, père Couturier, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Du côté protestant, vous avez le conseil œcuménique des églises, enfin la constitution. Tout ça, c'est essai de rassemblement. Et vous allez avoir une conjonction du grand mouvement œcuménique qui, dans les années 50, commence à avoir pignon sur rue, et du mouvement biblique. Pour l'Église catholique, arrive à la fin des années 50 l'idée du concile, et Jean XXIII désire que ce concile soit œcuménique, mais œcuménique, quand on est à l'intérieur de l'Église catholique, ça ne veut pas dire forcément que ça va rassembler toutes les religions, mais ça se veut un concile de communion. Alors, c'est ce que ça a provoqué. Ça a provoqué quelques divisions, et sans doute nécessaires. En tout cas, Jean XXIII a été le premier à demander à des observateurs protestants et orthodoxes de venir au concile des catholiques. Il y avait une espèce d'attente à la fin des années 50, début des années 60, à la fois biblique et œcuménique. Et alors à ce moment-là, vous avez deux personnes. Vous savez, les grandes choses, ça n'est pas forcément d'une décision du magistère, ni même d'un pape aussi excellent que Jean XXIII. Ça vient d'un bibliste, qui n'était pas dominicain, mais qui avait participé à l'école biblique de Jérusalem, qui était un grand archéologue, un grand déchiffreur des manuscrits de Qumran, et qui s'appelle Jean Starkey. Jean Starkey était de Mulhouse. Et il avait un ami qui était un pasteur protestant, le pasteur André Morel. Il se voit à l'hiver 61, et ils apprennent l'un et l'autre que, un, du côté catholique, la Bible de Jérusalem, dont tout le monde reconnaît l'excellence, est en procédure de révision. Il faut refaire la traduction, l'améliorer, réaménager les notes, alors qu'on est à peine 5-6 ans après la première publication. Et du côté protestant, le pasteur André Morel le dit que la traduction, alors la traduction de Louis II a eu beaucoup de révisions, vous aviez une version dite synodale, que du côté protestant, on cherche aussi à réviser, en particulier la Bible de Louis II, pour avoir un meilleur texte à disposition des croyants. Et de ces deux personnes en causant, je ne sais pas si c'était autour d'un café ou d'un apéritif, ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une révision commune. Des contacts sont pris en 1961, les choses sont pas mûres. C'est la balle est reprise en 1964. En 1964, vous avez à ce moment-là des gens des éditions du CERF, d'une part, donc des catholiques, et en tête, je dois nommer le père Chifflot et le père François Refoulé. Deux personnes. Ces catholiques, qui étaient des amis de Jean Starkey, se sont dit, mais oui, la révision de la Bible de Jérusalem, qui est en cours à ce moment-là, elle a déjà commencé, il faut qu'elle soit œcuménique. Ils prennent contact à ce moment-là avec des protestants du centre de Villemétrie. Le centre de Villemétrie est un centre de pastoral, pas uniquement biblique, mais aussi théologique, qui est animé par le pasteur Jean Bosque, le pasteur Georges Casalis, le pasteur Pierre Prigent. Je nomme ces trois. Vous voyez que les protestants étaient au début pas très chauds pour réviser la Bible de Jérusalem, qui est une Bible catholique, alors que du côté protestant, on a d'excellentes Bibles protestantes. L'idée fait son chemin. Et on se dit, ben écoutez, on va quand même essayer. 1964, début, vous avez une équipe, deux équipes qui se mettent en chantier, mais l'une principalement, et ils se sont dit que l'on allait commencer, on va faire un essai. Pourquoi, après tout, ne pas réviser ensemble, et on va prendre le texte qui a divisé catholiques et protestants depuis la Réforme, c'est-à-dire l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, vous avez donc François Refoulé d'un côté, Pierre Dornier, vous avez François Dreyfus qui était dominicain de l'école biblique de Jérusalem, et du côté protestant, vous avez Pierre Prigent et Pierre Bonnard. Ils se mettent au travail. Début 1965, ils rendent leur travail. À ce moment-là, ils sont une dizaine catholiques et protestants, et alors, ils s'aperçoivent, les gens qui sont là, ils ont bien travaillé, les Bonnard, Prigent, Dreyfus, on se rend compte que du texte de la Bible de Jérusalem, il ne reste rien. Ou pratiquement rien. La révision, quand on fait une révision, c'est-à-dire qu'on ne retraduit pas à nouveau frais, en théorie. On va expliquer tout à l'heure ce qu'on a fait pour la TOB 2010. Il se rend compte qu'il ne reste pratiquement rien. Et à ce moment-là, vous avez une espèce de vent glacial sur les gens qui sont là en se disant « Mais non, jamais les dominicains de l'école biblique de Jérusalem n'accepteront une révision aussi fondamentale. Ce n'est pas une révision, c'est un nouveau texte. Autrement dit, il faut mieux arrêter les frais. On pensait qu'il était possible de réviser ensemble la Bible de Jérusalem. » Et quelqu'un dit « Mais si on a réussi à faire un nouveau texte avec des notes, catholiques et protestants ensemble, pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas tomber le projet d'une révision écuménique de la Bible de Jérusalem pour mettre en chantier une nouvelle traduction qui, elle, serait parfaitement écuménique de A jusqu'à Z ?» 1965, le Concile Vatican II n'est pas terminé. La constitution que vous connaissez peut-être, De Verbum, n'est pas terminée. Elle ne sera votée qu'au mois de novembre. J'insiste là-dessus. Ce sont des gens en dehors des institutions, soutenus évidemment par des éditeurs, qui se sont mis en chantier. Alors il a fallu complexifier les choses, j'ai insisté sur les débuts. Les éditions du CERF prennent contact, avaient déjà pris contact précédemment avec une maison d'édition qui s'appelle la Société Biblique Française. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors c'est elle qui édite aujourd'hui la plupart des Bibles protestantes, donc la Bible Second, la Bible en français courant, la Bible Parole de vie. Alors tout dernièrement, The Bible, si vous en avez peut-être entendu parler, une Bible pour les jeunes, quelle Bible en français courant. Bien. La Société Biblique Française. Et le directeur de la Société Biblique Française est tout à fait d'accord. Non seulement la Société Biblique Française est tout à fait d'accord, mais le secrétaire général des Sociétés Bibliques Unies, c'est-à-dire l'organisme qui fédère les dizaines de sociétés bibliques dans le monde, qui est le docteur Olivier Béguin, et qui est un laïc suisse, c'est lui le secrétaire donc de l'organisation internationale qui fédère l'ensemble des sociétés bibliques. Il dit il faut y aller. Du côté catholique, du côté protestant, les forces sont là. Et sous la houlette du père François Refoulé, catholique, et du pasteur Georges Casalis, protestant, vous allez avoir, entre janvier 1965 et juillet 1965, de multiples contacts auprès des biblistes catholiques et protestants qui existent, et des équipes vont se constituer. Ça devait être écuménique. Il existe en France un institut qui s'appelle l'Institut orthodoxe Saint-Serge. Des contacts sont pris avec le métropolite Méletios, qui est donc le représentant de la hiérarchie orthodoxe. Et Méletios est tout à fait d'accord et enthousiaste. Il existe à ce moment-là à l'Institut orthodoxe Saint-Serge deux professeurs, il n'y en a pas plus aujourd'hui d'ailleurs, hein. Un pour l'ancien, un pour le nouveau. Hein. Vous êtes quatre. Ah, vous êtes quatre, vous avez doublé. Voilà. Donc à l'époque, vous aviez Alexis Kniaziev d'une part, qui était pour l'Ancien Testament, et Nicolas Kolmzin, qui était pour le Nouveau Testament. Ces deux-là disent, écoutez, on a énormément de travail, nous les orthodoxes, on est très faibles, on est tout à fait d'accord avec le projet, mais on ne pourra jamais avoir des dizaines d'orthodoxes qui participent aux équipes. Donc le principe est admis, des équipes catholiques mixtes, catholiques protestants vont travailler ensemble, puis ensuite ils vont donner leur texte aux orthodoxes. Ils donneront leur avis. Et voilà comment on a travaillé de juillet 1965 jusqu'en octobre 1975, à la fois pour l'Ancien et pour le Nouveau Testament. Des équipes de 2, 3, 4, 5, 6 suivant les livres, se sont réunis, alors ils se réunissaient d'abord par petites équipes à Paris, à Vienne, à Lausanne, à Luxembourg, ils travaillaient ensemble, et tous les étés, ils se réunissaient pour une grande séance commune. Ça a donc pris à peu près 10 ans. Alors ils ont consulté des grands spécialistes en linguistique, en traduction, etc. Au point de départ, un certain nombre de gens étaient dubitatifs. Comment ? Et en particulier du côté catholique, je parle du côté catholique ici, vous aviez à Rome, vous aviez des gens qui disaient « Mais comment est-ce que c'est possible d'avoir des notes qui soient communes ?» Que la traduction soit commune encore. Après tout, pourquoi pas ? Parce que vous avez un texte, on peut se mettre d'accord sur comment traduire le grec ou l'hébreu, mais avoir des notes historiques, peut-être, archéologiques, certainement, mais théologiques. Le principe a été admis que dès le point de départ, s'il y avait des problèmes pour l'interprétation de telle ou telle note, eh bien il y avait la possibilité d'avoir une note dans laquelle on dirait « les protestants disent ça, les catholiques disent ça, les orthodoxes disent ça ». Or, en 1975, lorsque la tome générale Ancien et Nouveau Testament est parue, on s'est rendu compte que ça n'a existé que 4 fois. Donc 3 fois pour la lettre aux Romains. Dans la lettre aux Romains, si vous avez la première édition de la tome, vous avez à 3 endroits, en particulier pour la justification par la foi, au chapitre 1, vous avez une note dans laquelle on dit, ben voilà, dans la tradition protestante c'est ceci, dans la tradition catholique c'est ceci. On n'a pas à l'époque parlé de la tradition orthodoxe, parce que vous avez eu un petit clash. Le petit clash est en 1970 ou 72. 71, merci. Le petit clash, ben, tu veux raconter ?
Oui, peut-être que là, une petite chose qu'il faut dire avant, c'est que donc, les deux professeurs de Saint-Siège qui ont participé au projet donc, pour l'Ancien et pour le Nouveau Testament, ils étaient très connus dans le milieu biblique francophone, parce qu'ils étaient formés déjà en Russie, après ils ont continué leurs études en Allemagne, donc ils étaient des vrais biblistes. Et en 1965, sortait à Paris une Bible qui s'appelle « La première Bible œcuménique »,
oui,
publié à l'édition d'une planète, on avait indiqué qu'elle se trouve à la bibliothèque à l'Institut catholique. J'ai lu un peu l'introduction et j'ai vu que dans cette Bible, donc pour chaque livre, il proposait une introduction catholique, protestante, orthodoxe et juif.
Le texte était celui de la Bible de Jérusalem. La traduction de la Bible de Jérusalem. Les introductions étaient donc déjà écuméniques et interreligieuses.
Donc vous avez 4 introductions. Donc, ces professeurs ont bien accepté ce projet, ils ont participé à cette première Bible écuménique, mais dès qu'ils sont passés sur la tombe, ils se sont trouvés devant une autre réalité, dans le sens qu'ils devaient donner de la course des introductions qui, d'un point de vue biblique et scientifique, c'était correct, mais d'un point de vue orthodoxe, ne passait pas. Donc à ce moment-là, c'est surtout pour le Nouveau Testament que le professeur Nicolas Conti, il était mathématicien, après il était formé en Allemagne, donc il connaissait très bien l'exégèse historico-critique, il a dit, ça ne passe pas dans le milieu orthodoxe, donc je ne peux pas être d'accord, donc il a dit, je préfère me retirer du projet. Donc en 1971, il envoie une longue lettre à Mgr Méritius en expliquant tous les points qui le gênent dans la taupe. C'était surtout lié à l'authenticité des auteurs et l'apostolicité des auteurs du livre du Nouveau Testament.
Par exemple, le fait de dire dans l'introduction que ce n'est pas Matthieu le collecteur d'impôts qui est l'auteur de l'évangile de Matthieu.
Ou par exemple, l'évangile de Jean... on ne sait pas si c'est de l'apôtre Jean ou c'est les disciples que Jésus aimait, on ne sait pas l'auteur, et surtout pour les lettres pastorales de Saint Paul, et qui aussi l'authenticité qui était vraiment dans la première édition de la tombe, la verbe était très dure envers les auteurs.
En disant que les lettres à Timothée ou à Pierre n'étaient pas de Saint Paul, ce qu'on pense aujourd'hui, hein. Mais c'était affirmé de façon un peu abrupte. Et là, évidemment, ça ne passait pas.
Ça ne passait pas. Donc, dans ce cas, Méletios s'est trouvé dans une situation un peu difficile. Et il a convoqué les orthodoxes, les protestants et les catholiques de se rencontrer, de discuter autour de la taupe, de cette introduction. Et donc, il a eu une première rencontre rue du Clichy chez les protestants. Je réponds, monsieur la Fédération protestante de France, qui risquait de mettre le projet, donc la participation de l'orthodoxe, donc l'orthodoxe pensait de se retirer du projet. Et après, ce sont les dominicains qui ont insisté de faire une deuxième rencontre, qui est lieu à l'édition de Sèvres. Donc là, à l'édition de Sèvres, ont participé à environ une trentaine de théologiens orthodoxes qui ont discuté, et à la fin, ils ont rédigé un texte qui était publié dans la première édition et même dans la révision de la deuxième édition qui est sortie en 1998 de la Taupe. Donc dans la première édition de la Taupe, même pour le Nouveau Testament, et après quand c'était toute la Bible complète, vous avez dans l'introduction un petit paragraphe, un note, avec la position orthodoxe par rapport à la Taupe, en expliquant qu'ils sont d'accord pour l'Ancien Testament, mais il y a des réserves en ce qui concerne les introductions pour le Nouveau Testament. Et il y a plusieurs façons, il y a 5 points donc, qui expliquent exactement la position orthodoxe. Mais après cette rencontre aux éditions de Sèvres, donc les orthodoxes ont continué à participer au projet de traduction seulement pour l'Ancien Testament avec le professeur Alexis Knenzer. Donc c'est lui qui a fait la lecture pour l'Ancien Testament et parfois même pour le Nouveau Testament. Mais on peut dire que la participation orthodoxe au projet, c'était un peu
symbolique,
très symbolique pour l'ensemble. Donc une participation symbolique. On a voulu rester dedans pour donner cette dimension ethnique.
Moi j'admire, hein. Vous avez Ménétios, bon, je ne connais pas, mais voilà, vous voyez bien, il y a des problèmes, mais il y a un projet œcuménique. On tient quand même à dire que le projet, on est d'accord avec le projet, même si on n'est pas d'accord avec le détail des notes et des introductions. C'était ça le sens de la note. Donc, 1975, vous avez alors 72 est sorti le Nouveau Testament, puis ensuite 75 est sorti l'Ancien Testament. Et assez rapidement, les gens se sont dit, il faut qu'on révise. Toutes les Bibles sont révisées. Alors, là, je vous donne une petite idée, la Bible de Jérusalem, 1956, première édition. Première grande révision, 1973. Deuxième révision, 1998. Et puis, vous en avez une troisième qui est en préparation. Pour la Taube, 1975, première édition, 1988, première révision. Les mêmes équipes se sont revues, et alors il y avait des notes des lecteurs qui ont dit « Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas bon. » Et donc, on a refait la traduction et on a refait les notes. Ça, c'est 1988. Vous avez une petite association qui s'est créée à ce moment-là, qui s'appelle l'Association œcuménique pour la recherche biblique. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom-là. AORB. Alors, si vous êtes comme nous sommes dans un groupe œcuménique, vous participez vraisemblablement à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Eh bien, depuis fin des années 70, de temps en temps, il est bon que l'offrande de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens vienne à l'AORB. Enfin, si c'est le cas à Bourg-la-Reine, ou si ça le sera, cette année, une petite recommandation à la fois de Mgr 23, du pasteur Batty et de Mgr Emmanuel. Donc, ça fait partie des possibilités, hein. C'est jamais une obligation. Donc, l'AORB se charge de faire vivre la Taube. Elle a trois missions. Première mission, permettre que la Taube colle toujours le mieux possible aux recherches qui se font. Deuxième mission, permettre à la francophonie de recevoir de la Taube. La francophonie, c'est évidemment à l'extérieur, en Afrique, en Haïti, voire au Vietnam, par exemple. Je ne parle pas évidemment de la francophonie belge ou suisse, en l'occurrence. Donc c'est des envois de Bible, des envois de Bible. Et puis, troisième dimension, c'est permettre d'avoir des outils pour continuer la recherche biblique. Et parmi ces outils est sorti, dans les années 90, est sorti une concordance, un gros bouquin dans lequel tous les mots sont répertoriés des uns après les autres. En 2000, à la fin des années 90, donc près de l'année 2000, vous avez eu, à l'intérieur de cette association, vous avez eu quelqu'un qui a fait un rapport, qui est le pasteur Monsara, qui était à ce moment-là
qu'il était déjà en sort.
Il était le secrétaire de l'Alliance biblique française. Et il disait, mais écoutez, actuellement, la recherche scientifique fait que les introductions de la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, ça ne tient plus. Si vous voulez, vous avez dans toutes les Bibles d'autrefois, vous savez ça, Abraham, 1850, hein. En fait, depuis les années 80, il n'y a plus aucun bibliste sérieux qui tient ça. On ne sait plus très bien, d'ailleurs, comment dater Abraham, ni même l'Exode. Vous avez eu d'énormes recherches sur les documents, sur comment le Pentateuque a été créé. Et à ce moment-là, vous avez une petite équipe, avec trois catholiques et deux protestants, qui s'est créée sous la direction du professeur Jacques Brillat, de l'Institut catholique de Paris, et du professeur Thomas Römer de l'Université de Lausanne, ou Genève, je ne me souviens plus très bien. Je crois que c'est Lausanne. Lausanne. Il est maintenant au Collège de France, Thomas Römer. Donc, autour de cette équipe a repris de fond en comble et la traduction. Alors, ils n'ont pas traduit à nouveau frais. Ils ont amélioré la traduction existante et ils ont refait les introductions et les notes pour tenir compte du dernier état des recherches scientifiques concernant la composition du Pentateuque. Ceci est paru en 2003 et a été intégré dans la Tobe en 2004. Dans la suite de cette révision, qui a été une révision assez importante, vous avez eu une deuxième idée qui est née, mais qui était déjà dans l'air du temps, avec le pasteur Jean-Marc Babu, qui était le secrétaire donc, de l'AORB, l'Association œcuménique pour la recherche biblique, qui dit, mais ce qu'on a fait pour le Pentateuque, il faut peut-être le faire pour les prophètes, pour les sages, et pour le Nouveau Testament. D'autant que nous avions, et je vois que vous avez cette revue-là, cet extrait, d'autant que, par exemple, l'Amitié judéo-chrétienne de France, avait fait une remarque sur la traduction du terme juif, on y reviendra tout à l'heure. À ce moment-là, vous avez eu, de la part de l'Institut orthodoxe Saint-Serge, et en particulier, de la part du professeur Stéphane Munteanu, qui est là. Le professeur Stéphane Munteanu est un spécialiste, il ne va pas se présenter lui-même, donc je suis obligé de le dire, et quelqu'un qui a fait, est un spécialiste de la traduction interprofessionnelle. Il a fait sa thèse sur le sujet. Il a proposé, en discutant avec le secrétaire de l'Alliance biblique française, le pasteur Bernard Coyot, que tant qu'à faire d'avoir une révision, et il y a eu une révision dans laquelle des orthodoxes ont été davantage investis, pourquoi ne pas ajouter dans la Tobe, ce qui ne s'est jamais fait au monde jusqu'à présent. C'est-à-dire intégrer dans la partie des livres qu'on appelle deutérocanoniques, 6 livres qui sont importants pour les orthodoxes, mais que les catholiques, et à plus forte raison les protestants, ne connaissent pas. Ah ben, je ne me trompe pas. Non. Bon. Le travail s'est fait entre 2006 et 2010. Et le professeur Munteanu a piloté une équipe dans laquelle vous aviez une baptiste, une orthodoxe et un catholique. Et alors en consultant aussi de grands professeurs spécialistes des livres en question, eh bien vous avez eu l'introduction, vous avez eu l'édition des nouveaux livres que vous avez dans l'édition 2010 de la Tobe. Je termine ma petite présentation. L'édition 2010 de la Tobe, c'est 1. Une mise à jour des introductions et des notes. Un affinage de la traduction. C'est d'abord ça principalement. Deuxièmement, c'est aussi un énorme travail éditorial. On a refait la maquette, on a repris les caractères, on a essayé de donner une meilleure lisibilité à la fois pour la grosse Tobe, qui est celle-ci, que pour la petite qui est celle-ci. Il existe en plusieurs éditions. Donc ça, c'est la partie la plus importante. Et en plus, on a inséré, dans la partie qui s'appelle les deutérocanoniques, on a désormais, avant, vous n'aviez qu'une seule partie, alors c'est la feuille qu'on vous a donnée. Vous aviez, jusque donc 2010, vous aviez les livres deutérocanoniques admis par les catholiques, et que les protestants appellent, vous le savez bien, apocryphes. C'est-à-dire que pour eux, ils ne sont pas parole de Dieu, ils sont intéressants à lire, mais ils ne sont pas parole de Dieu. Hein, ils sont intéressants quand même, hein, ça n'a rien d'hérétique du tout. Bon. Et même certaines villes protestantes ne les portent pas. Et donc, depuis 2010, on a ajouté, en plus de ces 7 livres-là, on a ajouté 6 livres que vous avez là, mais sur lesquels je vais maintenant passer la parole à Stéphane.
Donc, je ne vais pas laisser en disant que comme ça, c'est plus facile à se rendre compte du changement qui a eu lieu dans la nouvelle COP. Donc, à côté de 9 livres deutéronomiques catholiques, le lecteur de la COP était habitué jusqu'à aujourd'hui, il y a 6 livres qui viennent s'ajouter. Plus exactement, il s'agit de 4 livres, donc 3 et 4 Esdras et 3 et 4 Maccabées, et 2 petites prières, 2 brèves prières, donc c'est la prière de Manassé et le psaume 151.
S'il y en a qui n'ont pas la feuille, il y en a 3 là.
Avant de parler de faire la présentation de ce texte, brièvement de ce texte, je voulais vous parler un peu du canon orthodoxe et surtout pourquoi dans le canon orthodoxe il y a plus de livres que dans le canon catholique ou protestant. Donc si pour le canon catholique on prend comme date de référence toujours le Concile de Trente, pour dire qu'il y a le moment quand c'était décidé le canon de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament dans l'Église catholique, et pour les protestants on fait toujours appel à la Bible de Luther en disant que c'est avec lui qu'on commence à faire la séparation, et c'est lui qui a fait sortir les deux deutéronomiques de l'Ancien Testament en disant que nous ne faisons pas partie du canon. Donc dans l'Église orthodoxe, l'Église orthodoxe a voulu rester fidèle aux enseignements du Père de l'Église et aux 7 premiers conciles écuméniques. Le problème, c'est que les Pères et les conciles ont rédigé des listes avec le livre canonique, mais en mettant les listes l'une à côté de l'autre, on se rend compte que les listes ne comportent pas en ce qui concerne le monde. Donc parfois, il y a des Pères qui se tiennent seulement, plusieurs Pères se tiennent seulement pour le canon de l'Ancien Testament formé de 39 livres du canon hébraïque, du canon de la Bible hébraïque, mais dans le même temps, dans leurs œuvres, ils citent beaucoup les deux canoniques. Après, dans les listes du Concile écuménique, on a des listes qui s'arrêtent avant 39 livres du canon hébraïque, après les autres qui dépassent et s'arrêtent, comme maintenant, 46 ou même à 50 livres qui sont compilés dans. Mais le problème, c'est que dans toute cette période, l'Église orthodoxe a resté fidèle à celle qu'elle appelle la Bible grecque, donc la Septante. Donc, c'est la Bible qui s'est imposée dans l'Église, et comme dans les manuscrits qui nous ont été transmis de la Bible de la Septante, donc les grands codex Sinaiticus, Vaticanus et Alexandrinus, donc dans ces codex, nous avons pour l'Ancien Testament les livres canoniques et les théotrocanoniques, donc l'Église orthodoxe a toujours l'expérience de le lire et de l'utiliser dans la liturgie. Donc aujourd'hui, le problème du canon dans l'Église orthodoxe s'est posé bien sûr après la réforme, et donc à ce moment-là, donc l'Église orthodoxe devait aussi se prononcer. Donc, comme on n'a pas pris une décision de trancher sur le canon, on a décidé de se retourner vers les Pères, de voir exactement qu'est-ce qu'ils nous disent du livre canonique et de l'autre canonique. Donc le terme deutéronomique n'existait pas jusqu'au Concile de Trente. Donc dans ce cas, l'Église orthodoxe ne pouvait pas utiliser un terme qui n'existait pas avant, ni de trouver chez les pères le terme deutéronomique. Donc on avait pris un terme qui était, on le trouve dans les écrits de Athanase d'Alexandrie, où il parle du livre canonique, donc les 39 livres du canon. Et après il parle du livre Anaginoscomena, sont deux livres bons à lire, on indiquait à la lecture, dans la liturgie et dans la lecture privée de la Bible. Donc, en suivant Saint Athanase, l'Église orthodoxe sépare, on peut dire comme ça, les livres dans la Bible en livres canoniques, livres anaginoscomena, et donc pour l'Ancien Testament, 39 livres canoniques, à quels sont les livres anaginoscomena qui les catholiques les appellent deutérocanoniques. Le problème, la différence entre les deutéronomique catholique et anaginoscomène orthodoxe, c'est qu'au niveau de leur autorité dogmatique, on n'a pas tranché encore. On dit qu'ils sont bons à lire, mais on ne peut pas utiliser ces livres pour fonder un enseignement dogmatique. On ne peut pas, par exemple, on ne peut pas se baser sur le livre de de Maccabée pour dire qu'il faut faire des prières pour les morts, pour les défunts. Donc voilà, on ne peut pas utiliser un texte, un livre qui vient deutérocanonique, en Aikilaskomena, comme support pour une affirmation dogmatique. Donc actuellement, ça c'est d'un point de vue d'autorité de ce livre. Mais il y a un autre aspect qui tient à ces livres, c'est l'inspiration. Est-ce qu'ils sont inspirés ou non? Donc, sur ce point, les orthodoxes sont divisés. Il y a des théologiens qui disent oui, ils sont inspirés, d'autres qui disent non, ils ne sont pas inspirés. Mais comme elles sont utilisées dans la liturgie, donc elles sont inspirées, et ceux qui expliquent qu'ils se trouvent dans nos Bibles. Donc, même s'ils n'ont pas une autorité, ils sont des livres inspirés parce qu'ils se trouvent dans la Bible. Donc, ils étaient transmis dans la tradition orthodoxe à travers la Septante, donc ils font partie de ce corpus. Parce que dans la Septante, dans les trois codex que nous avons, ce livre ne se trouve pas à part, mais sont mélangés avec les autres livres canoniques. Donc, dans l'Église orthodoxe, n'a jamais eu de différence par rapport à leur place dans la Bible. Actuellement, dans les Bibles orthodoxes, vous avez aussi plusieurs positions, deux positions, donc dans les Bibles grecques, et russe, bon, slavon et dans les Bibles slavon et grec, donc ces livres deutérocanoniques, on a dit nos communes, sont mélangés avec les autres livres de l'Ancien Testament. Dans les Bibles en roumain, tous les livres en agnos comena sont séparés. Donc entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a une section qui s'appelle livre non canonique ou en agnos comena. Voilà, ça c'est une petite introduction sur l'histoire du canon dans l'Église orthodoxe. Maintenant, je voulais vous faire une petite présentation de six nouveaux livres qui sont introduits dans la TOC. Je pense que depuis que la nouvelle TOC est sortie, vous avez déjà le temps de les lire ou même de voir les introductions. Et je pense que vous avez vu que ces livres ne font pas partie seulement de la tradition orthodoxe. Ils ont parfois été utilisés ou sont encore utilisés par les catholiques ou ils étaient utilisés par les protestants ou par des mouvements évangéliques ou baptistes. Ces livres se retrouvent aussi, ont inspiré beaucoup du mouvement protestant. Pourquoi? Parce que ces livres, les six livres, textes qu'on vient d'introduire, se trouvent dans la Vulgate. Dans la Vulgate, dans le sens qu'ils étaient déjà présents dans Vetus Latina. Après, ils étaient transmis dans les manuscrits de la Vulgate. Et après le Concile de Trente, ils sont seulement 3 et 4 Esdras et la prière de Manasseh qui sont restés, les autres ne sont plus transmis dans les éditions de la Vulgate. Et aussi parce que dans la tradition anglicane, par exemple, on a toujours gardé aussi le psaume 51, le 3, 4 Esdras et la prière de Manasseh. Donc ce livre se retrouve aussi dans des autres, on a influencé dans le temps des autres traditions, donc pas seulement l'Église orthodoxe. Le premier livre dont je voudrais vous parler, c'est donc dans la Taube. Maintenant, vous avez. Le problème, c'est que nous avons décidé, dans le comité scientifique, de le ranger par rapport dans l'ordre alphabétique. Mais dans la grosse Taube que vous avez maintenant, la grande Taube, il y a une petite erreur d'ordinateur qui a fait qu'à la fin, c'est 3-4 Maccabées qui sont passés avant 3-4 Esdras. Mais l'ordre que je vais suivre dans ma présentation, c'est Esdras, Manasseh, Esdras, Maccabées, prière de Manasseh, l'option 151. Donc, le premier livre, donc, c'est 3 Esdras. Donc, c'est un livre qui est complémentaire du livre du chronique d'Esdras et Néhémie. S'il y a une partie qui est un peu parallèle avec le livre des chroniques et des Esdras et Néhémie, on rencontre dans ce livre, au chapitre 3, du 3 jusqu'au 5, une pièce originale. Donc c'est l'histoire des trois pages du roi Darius. Il s'agit plus exactement d'un tournant oratoire, dans lequel chacun des trois pages, fait l'éloge de ceux qu'il estime le plus puissant en ce monde. Donc c'est le vent, le roi, les femmes et la vérité.
À votre avis, c'est quoi la bonne solution?
Donc, c'est les femmes. Donc l'auteur.
C'est la vérité.
C'est la vérité. l'auteur accorde une importance particulière à la personnalité du Zorobabel, donc celui qui sera chargé pour reconstruire le temple. Et c'est d'ailleurs lui qui va gagner le pari par sa fameuse réponse qui va être réprimée par beaucoup de pères de l'Église. La vérité demeure, elle est tellement éternellement forte, elle vit et importe pour les siècles des siècles. Donc à la fin, c'est la vérité qui est la plus forte. Le deuxième livre, donc, c'est le quatrième livre d'Esdras. Ce livre nous est transmis dans plusieurs manuscrits de la Vulgate, donc il est transmis seulement en latin. Il y a 16 chapitres qui sont transmis en latin, donc c'est, et à l'intérieur de ces 16 chapitres, nous avons trois textes indépendants. Donc les chapitres 1, 2, qui parfois on l'appelle le cinquième livre d'Esdras, après le chapitre 3 à 14, qui on l'appelle l'Apocalypse de l'Esdras. Ce livre nous est transmis aussi dans des autres traditions éthiopiennes, et syriaques et coptes. Et après, nous avons la partie finale, les chapitres 15 et 16, ou le sixième livre d'Esdras. Donc, c'est un livre plutôt apocalyptique qui nous parle de la situation des Juifs après la destruction de Jérusalem, donc en 70 après Jésus-Christ. Donc il s'interroge surtout sur la situation, quel est l'avenir du peuple juif. Donc c'est plutôt un livre apocalyptique. Je ne voulais pas rentrer dans les détails par rapport à au contenu du livre, mais c'est étonnant, c'est un des livres qui est plus utilisé dans la liturgie catholique. Il n'a pas catholique dans la liturgie romaine, donc espagnole et latine. Romaine. Donc il était très, très utilisé. Le verset qui reste encore utilisé, donc c'est pour le requiem pour le. Pour les obsèques, donc lumière éternelle, non,
Oui, lux eterna,
lux
perpétuel.
Vous avez un verset.
Un verset qui est dans l'heure le repos éternel, Seigneur, et que la lumière éternelle les illumine. Donc ça vient du livre du quatrième livre d'Ezra. Donc c'est chanté, c'est utilisé, le requiem de la liturgie catholique utilisé encore aujourd'hui. Et donc. Il y a plusieurs versets de ce livre qui sont écrits dans la liturgie catholique. Le troisième livre, donc, c'est le livre de Maccabée, 3 Maccabées. Donc, c'est moins connu comme contenu, mais c'est très important parce qu'il s'agit d'un épisode qui parle de la persécution et de la résistance de juifs face aux persécutions du pouvoir païen. Donc l'action se passe à Alexandrie, où le roi Ptolémée IV et Philopator, donc en 3e siècle avant Jésus-Christ, veut la mort des juifs qui se trouvent à Alexandrie, et c'est pour ça qu'il enferme dans l'hippodrome, et ils vont être écrasés par des éléphants qui étaient drogués. À ce moment-là, il y a la prière de prêtre Éléazar, et Dieu intervient, et de la prière du prêtre Éléazar avec tous les juifs qui étaient enfermés dans l'hippodrome, et donc Dieu intervient, ils sont miraculeusement sauvés. Donc, à cette occasion, il y a une fête qui est instituée pour commémorer l'événement, et par exemple, l'historien Flavius Joseph nous parle de cette fête qui existait encore à Alexandrie à son époque. Donc, on voit que c'est un livre qui nous parle c'est un livre très proche de ce que nous rencontrons par exemple dans le livre d'Esther pour expliquer la fête de Purim. Donc, ce livre peut être une composition qui veut raconter l'institution d'une fête à Alexandrie proche de cette fête de Purim, donc sur la résistance des juifs. Par rapport à la persécution de pouvoir païen. Donc ce livre peut s'adapter dans diverses circonstances. Donc c'est pour ça que l'Église peut-être l'a réplique, parce que ça peut être, si à l'époque c'était seulement à l'époque c'était les juifs, donc à l'époque des persécutions des chrétiens, ils pouvaient bien s'adapter même pour les chrétiens qui se trouvaient dans les mêmes situations de persécution. Après, le quatrième livre, c'est le quatrième livre de Maccabée, même si dans ce livre qu'on appelle les quatre Maccabées, le sujet c'est parfois c'est un livre philosophique qui parle plutôt de la raison pieuse qui est souveraine de passion. Donc l'histoire tourne autour de l'histoire, c'est le martyr de Prêtre Eléazar, de cette jeune Maccabée, qu'on les appelle les sept frères Maccabées, et de leur mère. Donc même si les sept frères Maccabées et leur mère ne sont pas les Maccabées, les 1-2 du livre Maccabée, on connaît dans le deuxième livre de Maccabée l'histoire de leur martyr. Donc dans le quatrième livre de Maccabée, l'auteur répand l'épisode qui est raconté dans le deuxième livre de Maccabée, mais le présent avec détail en disant que pour chaque frère qui est tué, il y a un petit discours et la façon dont il est martyrisé. Et à la fin, même pour la mère, donc pour les Lazare, pour les sept frères et pour leur mère, il y a toute une description du martyrologue. C'est important dans ce livre de voir que il est mis dans la Septante à la suite du livre de Maccabée. Après un, deuxième, troisième, il y a le quatrième livre de Maccabée. Pourquoi dans le livre de la Septante, dans les textes de la Septante, les codex, ce livre est encadré dans cette partie? Pourquoi? Parce qu'on le trouve par exemple dans des autres manuscrits, dans la Bible, dans les Bibles anciennes, avec le martyr de sept frères, de sept fils et de leur mère. Avec le titre le martyr des Hazard, de sept frères et de leur mère. Mais dans la Septante, dans les codes de la Septante, on le trouve avec le titre de quatre Maccabées. Donc pour l'auteur de la Septante, la façon donc comme sept frères et leur mère ont défendu la religion, leur religion, n'ont pas cédé devant le pouvoir païen, donc il les inscrit dans la même lignée que les héros maccabiens du livre de 1 de Maccabée. Donc c'est très important de voir que la résistance d'avoir le pouvoir païen vient être liée à un mouvement plus important, comme c'était celui de frère Maccabée dans l'histoire juive. Le cinquième texte, qui fait partie de Deutéronomique orthodoxe, c'est la prière de Manassé, donc c'est une courte prière. Et quand vous parlez de Manassé, donc dans la Bible, il est présenté comme parmi le roi de Juda le plus idolâtre. Donc, on se demande comment c'est possible avec cette présentation du roi de Juda, de Manassé comme le plus idolâtre, à la fin de voir même une prière qui vient d'être intégrée dans la Bible. Cette prière, en effet, elle est suggérée par le chapitre 33 du deuxième livre de Chronique. Au chapitre 33, on sait que le roi Manassé est porté en captivité à Babylone. Et à Babylone, il commence à prier Dieu, et donc Dieu entendit sa supplication, il le fait revenir à Jérusalem et pour continuer son règne. Donc, et alors Manassé fait toute une conversion devant Dieu, et donc il regrette ses faits, ce qu'il a fait par avant. Et au même chapitre 33, verset 13, même si on n'a pas le contenu de cette prière, nous est dit que cette prière, on peut lire sa prière qu'il a adressée à Dieu dans les actes du roi d'Israël, histoire d'Israël. Donc, c'est le chapitre, au deuxième livre de Chronique, au chapitre 33, ne parle de Manassé qui prie à Dieu et que sa prière existe. Donc, la tradition juif, c'est surtout la tradition chrétienne qui a repris cette prière, l'a transmise dans la Septante. Ce qui est intéressant, c'est que dans les manuscrits de la Vulgate, cette prière se trouve ajoutée juste ici, après le chapitre 33 du livre de Chronique. C'était comme ça transmis dans le livre, dans tous les manuscrits de la Septante jusqu'au Concile de Trente. Et au Concile de Trente, il était enlevé et mis parmi les trois livres qui étaient ajoutés à la fin de la Bible. Ce qui est intéressant, c'est que cette prière de Manassé est le seul texte qui ne fait pas partie du livre de Deutéronome catholique qui se trouve dans la Bible de Luther. Donc, Luther, quand il a fait sa traduction en allemand, il a séparé le livre de Deutéronome catholique, il a mis une section à part entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais au livre de Deutéronome catholique, il a ajouté la prière de Manassé. Donc, il a traduit en allemand, il a mis parmi les livres de Deutéronome. Dans ce qu'il appelait apocryphe dans sa Bible. Le dernier texte, c'est le psaume 151. Ce psaume, dans la Septante, porte le titre de Hors numérotation. Donc il est considéré comme une signature davidique à la collection de 150 psaumes. Donc dans son contenu, il s'inspire du premier livre de Samuel, le chapitre 16-17. Et dans lequel on parle de David comme berger et musicien, qui est moins par Dieu et combat Goliath. Donc, ce psaume se retrouve aussi dans les anciens psautiers de la Vulgate, et il a été repris dans les psautiers orthodoxes à la fin du psautier. Et ce qui est intéressant, c'est le psaume qui inspire. Dans les anciens manuscrits qui s'inspirent toutes les miniatures qui sont dans le psautier. Donc les miniatures qui sont dans les anciens psautiers sont inspirées de ces psaumes. Donc on voit David Berger, David Montardieu, David combattant Goliath et David musicien. Donc ce sont des inspirations, les miniatures que l'on se trouve dans l'ancien psautier de la Septante sont inspirées de ces psaumes. Et ce que c'est une particularité, même s'il n'est pas lu dans l'Église orthodoxe, ce psaume, on sait qu'il était utilisé à l'époque byzantine, à la cour de l'impérateur, pour le comparer au roi David. Parce que le psaume dit que j'étais petit parmi mes frères, mais Dieu n'a pas choisi. Donc, dans les discours à la cour, l'empereur était comparé avec David.
Voilà pour la présentation de ces livres. Nous acheminons vers la fin. On va maintenant vous donner quelques exemples de traduction. Alors, la traduction dans le Nouveau Testament, c'est le terme « les Juifs ». Alors, vous pourrez rentrer chez vous, lire cet article. Je vous donne simplement la question. C'est qu'effectivement, quand vous lisez l'évangile de Jean, mais uniquement lui, ça ne joue pas pour Matthieu, Marc et Luc. Vous avez l'impression que ceux qui condamnent Jésus, ce sont tous les Juifs. Évidemment, dans l'histoire de l'Église, ça a donné prise à l'antisémitisme. Et vous savez bien que dans la liturgie maintenant depuis 1960, on a supprimé de la prière du Vendredi Saint les Juifs déicides, hein, voilà, donc ceux qui ont tué Dieu. Et l'évangile de Jean pouvait laisser entendre ce genre de choses imbéciles, vous voyez bien, ce sont, en fait, quand on lit le texte de l'évangile de Jean, et vous avez une équipe qui a pris l'évangile de Jean, qui l'a relu et qui l'a passé au peigne fin, il se trouve que le terme, alors excusez-moi d'être un tout petit peu érudit, le terme grec « oi iudaioi », c'est-à-dire « les Juifs », est employé de trois manières différentes. Première manière, Jean utilise ce mot-là pour désigner les habitants de la Judée. Autrement dit, on pourrait dire « les Judéens ». Et c'est comme ça qu'ils ont traduit. Ça arrive de temps en temps. C'est parfaitement neutre, par opposition, par exemple, à ceux qui habitent la Samarie, qui sont les Samaritains. Vous avez une deuxième exception, qui est la plus courante, la plus habituelle. Les Juifs, ce sont ceux qui pratiquent la religion juive. Et ça, c'est le domaine le plus grand. De ce point de vue-là, Jésus est un Juif. Les apôtres sont des Juifs. Bien. Autrement dit, il n'y a pas une opposition ou s'il y a des oppositions, c'est entre membres de la même religion. Et enfin, vous avez un troisième terme, et qui est le plus important, plutôt un troisième sens, ce sont le terme « oi yudaioi », les juifs, ne désigne pas tous les juifs, mais les responsables religieux des juifs. Autrement dit, les membres du clergé du temple de Jérusalem. Et c'est ainsi que ça apparaît au début de l'évangile de Jean. Alors, vous avez le début de l'évangile de Jean, commence, vous savez bien, par le prologue, au commencement avec le verbe, etc. Et ça se termine par « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. » Voici quel fut le témoignage de Jean. Il s'agit ici de Jean Baptiste. Voici quel fut le témoignage de Jean lorsque, de Jérusalem, les autorités juives envoyèrent vers lui des prêtres et des lévites pour lui poser la question « Qui es-tu ?» Dans l'ancienne traduction, dans la Bible de Jérusalem, dans toutes les autres, vous avez « Voici quel fut le témoignage de Jean lorsque les juifs de Jérusalem envoyèrent vers lui des prêtres, etc. » Ici, on a mis les autorités juives. Donc, pour qu'il n'y ait pas du tout d'ambiguïté. Voilà un exemple et un élément qui, me semble-t-il, peut faire partie désormais d'un débat de meilleure relation avec nos frères juifs. Deuxième exemple, le terme
Zeusabat.
C'est le terme plutôt
Pantocrator
qui vient de la Septante. Donc, un autre changement qui est eu dans la nouvelle taupe, c'était de porter sur le nom divin. La quasi-totalité d'entre elles portait sur les qualificatifs puissants et tout-puissants.
Et Dieu tout-puissant.
Donc, le traducteur de la taupe, on convenait de supprimer toutes les occurrences de la mention tout-puissant qui accompagne le nom divin. Donc, maintenant, vous n'avez plus dans la taupe le nom tout-puissant. Donc, pourquoi ? Parce qu'il considérait qu'il s'agissait d'une contamination païenne, un anthropomorphisme, qui fait passer Dieu pour une sorte de super-héros humain. Donc, tout humain. Maintenant, Dieu tout-puissant, c'est quelque chose de très banal. Donc, comment l'exprimer ? Est-ce qu'il est puissant ? Est-ce qu'il est puissant d'amour ? J'ai vu quelqu'un qui a ajouté. On ne sait pas exactement comment l'expliquer, ce tout-puissant. Or, ils ont été décidés de traduire par souverain, à la place de tout-puissant. De puissance, c'était la traduction. Le problème, c'est qu'en remplaçant le terme tout puissant, donc ça pose un petit problème pour les orthodoxes. Donc, j'ai pas, avec les réunions qu'on a eues, j'ai pas pris la même position que M. Colomzin qui l'a pris à l'époque, mais j'ai indiqué seulement qu'en enlevant le tout puissant pour le nom de Dieu, derrière ce mot, les orthodoxes ne pensent pas à Deus Sabaoth, mais à Pantocrator, qui pour nous, à travers le Nouveau Testament dans le livre d'Apocalypse, donc si le terme tout-puissant, on pense que ce rencontre se réfère au nom de Dieu dans l'Ancien Testament, donc c'est seulement au nom de Dieu dans l'Ancien Testament, pour nous les orthodoxes, le fait que dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 8, Jésus-Christ est appelé Pantocrator, donc tout-puissant, renvoie donc c'est un titre qui vient pas pour Dieu mais pour le Fils de Dieu, pour Jésus. Donc si vous rentrez dans l'église catholique orthodoxe maintenant, vous avez sur la coupole centrale l'image de Christ Pantocrator. Donc en enlevant le titre de tout puissant de l'Ancien Testament et même de l'Apocalypse, donc pour un lecteur orthodoxe, il n'y a plus ce lien, cette image de Christ Pantocrator. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé que chaque fois que le titre Pantocrator dans la taupe est remplacé par ce dévant, d'avoir une note qui explique que derrière se trouve le mot grec Pantocrator qui peut être traduit par tout-puissant ou celui qui tient tout. Donc, c'est un changement qui était nécessaire, mais on a posé un peu de difficultés pour le lecteur, peut poser des difficultés au lecteur orthodoxe. D'autre part, ce changement concerne aussi les lecteurs catholiques et protestants. Parce que vous êtes habitués, donc, dans l'ancien temps, on avait, parce que tout-puissant, se référait pas seulement au Pantocrator, mais aussi à Deus Sabaoth. Donc avant, vous avez toujours, on chantait sans le Seigneur, le tout-puissant. Maintenant, donc, dans la nouvelle Togue, vous avez le texte qui, je disais à Bergion, qui s'inspire beaucoup de la liturgie catholique. Donc, vous avez Saint, le Seigneur de l'univers. Donc, ce choix, c'est aussi discutable, parce que, surtout pour nous, les orthodoxes, si vous rentrez dans l'église orthodoxe, au moment qu'on chante le Saint, vous allez voir qu'on chante Dieu Sabaoth. On n'a pas trouvé de remplaçant pour le mot Sabaoth. Donc on ne l'a pas traduit par Dieu de l'univers. Donc, pourquoi? Parce que le titre Sabaoth, on préfère le traduire par le Seigneur des armées célestes, dans le sens que se réfère aux anges et par extension donc à toutes les créatures et pouvoirs célestes. Donc, dans la Bible Louis II, on considère que ça peut être une proposition aussi, une bonne proposition, parce que c'est Saint, le Seigneur des armées. Mais encore ici, la question se pose, quelle armée? Donc, à la fin, dans la top, la solution qui était la position qui était adoptée, donc de traduire par le Seigneur de tout l'univers, peut être une qui, avec une bonne explication, un autre, peut trouver. Peut être accepté même par les catholiques, même par les protestants et même par les orthodoxes.
Voilà deux petits exemples, il y en aurait d'autres. Hein. Alors, on va terminer en vous disant quelle est la place de la Bible dans l'Église catholique, protestante et orthodoxe. Alors, il aurait dû y avoir un protestant ici. Il y en a dans l'Assemblée des protestants ? Alors, c'est bien. Parfait. Donc, si ce que je vais dire pour les protestants est faux, surtout, n'hésitez pas à intervenir tout à l'heure. Je retiens, moi, de la tradition protestante et de la base de la Bible, c'est évidemment la sola scriptura, pour le dire en latin, c'est-à-dire, le génie de Luther au moment de la Renaissance, c'est de dire que c'est pas pour être croyant, c'est pas ce que me disent le pape, les évêques et les confesseurs qui comptent, c'est d'abord le contact direct entre moi, l'individu, et la parole de Dieu qui se donne dans les Écritures. La parole de Dieu se donne dans les Écritures totalement, et elle n'a pas besoin forcément des commentaires, des conciles, etc. Donc c'est une question d'hiérarchie. Ce qui compte d'abord, c'est la sola scriptura. Donc l'Écriture seule qui nous conduit au Christ, bien entendu. Mais moi, catholique, je retiens de ceci qu'il y a une très belle chose, mais que j'appellerais une utopie, comme si le contact avec le texte avait véritablement changé ma vie. Je dis que c'est une utopie. Parce que même Luther s'est rendu compte qu'il y a des passages de l'Écriture qui sont obscurs et qu'on ne comprend pas toujours ce qui est dit. C'est pourquoi, dans l'Église catholique, de peur que les lecteurs puissent se tromper, vous savez qu'au XVIIe siècle, si vous deviez lire la Bible tout seul, vous deviez demander à votre directeur de conscience. Et il se trouve que cette règle n'a jamais été véritablement appliquée. Comme si le peuple chrétien de lui-même, le peuple catholique en l'occurrence, se disait que pour certaines choses, on pouvait se passer quand même de l'autorisation du confesseur. Alors, je ne sais pas, moi, si je, comme prêtre, je me dis, tiens, peut-être qu'un jour, il y a des gens qui se sont accusés en disant « Mon père, je m'accuse d'avoir lu la Bible tout seul. » Ça paraît idiot aujourd'hui. Alors, en régime catholique, et là, je suis un peu plus sérieux, il y a la nécessité pour aider la lecture personnelle et collective, d'avoir des commentaires et des explications. On ne peut, là, ça c'est catholique, on ne peut pas lire la Bible tout seul. On la lit avec d'autres. Et on la lit dans le grand mouvement de transmission de la Bible depuis les apôtres. Ce sont les apôtres qui nous ont transmis, y compris d'ailleurs l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament est passé dans l'Église parce que ce sont les premiers apôtres, ce sont, disons, la première génération chrétienne de la fin du 1er siècle qui a estimé qu'on avait là les éléments essentiels pour la parole de Dieu. Donc, je dirais bien ceci de plus important. Alors, au cours de l'histoire, ça veut dire que dans les Bibles catholiques, vous avez toujours eu une importance donnée aux notes et aux introductions. Et pour la Tobe, ça posait un petit problème. C'est-à-dire que dans la tradition protestante, du moment qu'on veut privilégier un contact personnel avec la parole de Dieu sans trop influencer la lecture de celui qui se lit, il ne faut pas trop de commentaires et de traductions. Et c'est pourquoi la Tob existe en deux éditions. Celle-ci, j'allais dire, elle est catholique. Je ne sais pas si elle est orthodoxe. Hein. Voilà. Non, je me dis non. Il y a d'énormes notes. Donc, pour guider la lecture, celle-ci, ce n'est pas une édition bon marché, alors elle est plus meilleure marché que celle-ci, mais c'est que surtout on privilégie le texte et ce sont avec des notes essentielles. Donc, on respecte les deux traditions, la tradition catholique et la tradition protestante.
Dans une Bible orthodoxe, on n'a pas de notes, donc.
Vous êtes plus protestant que les protestants.
Et cette chose, donc, c'est surtout parce qu'il existe cette dimension dans l'orthodoxie de lire la Bible dans l'église. Donc,
c'est jamais une lecture personnelle, en fait.
C'est pas, même, l'exemple, même en lisant la Bible à la maison, on le lit dans l'église. En disant que tout se fait comme ce qu'on appelle chez nous liturgie après la liturgie. Donc ce que vous apprenez pendant la liturgie ou dans la catéchèse à la paroisse, ça continue à la maison. C'est toujours un dialogue permanent doit être pour la lecture de la Bible entre la lecture privée et la lecture communautaire. Donc on dit qu'en lisant tout seul, vous lisez toujours dans la lecture, et c'est une lecture communautaire dans le corps du Christ, dans l'Église. Donc c'est un... On encourage la lecture privée de la Bible à la maison, mais en disant, dès que vous avez une difficulté, un problème, venez de le discuter dans le centre, à l'intérieur de la communauté, avec les prêtres, avec les pasteurs, d'être en dialogue permanent avec la tradition. Donc ce sera toujours la tradition qui accompagne la lecture de la Bible. C'est pour ça que parfois l'orthodoxie est accusée d'un manque de lecture privée de la Bible, parce qu'il y a toujours ce rapport qui doit exister entre le pasteur et la personne qui fait la lecture et le pasteur de l'église. On ne peut pas lire la Bible en dehors de l'église. Ça, c'est vrai, ça empêche beaucoup des orthodoxes de lire la Bible, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque orthodoxe à la maison a une Bible. Et il fait la lecture, et sont les évangiles qui sont très, très lus à la maison, ça c'est sûr, mais c'est surtout les psaumes. Donc, le psautier est comme un livre de prière, donc il est lu quotidiennement chez lui. Si vous demandez à un orthodoxe de faire la lecture de la Bible, il va répondre non, mais si vous lui demandez de réciter deux ou trois psaumes dans le psautier, il va les réciter sans se rendre compte qu'en effet ça vient de la Bible. Le psautier, c'est comme un texte à part de la Bible. Pour lui, on les évangiles, les connaît, les entend, les récite, les chante. Donc, voilà, ça. Mais il n'y a pas une seule dimension de lecture privée, porte d'études bibliques dans les paroisses orthodoxes. Maintenant, on vient toujours de faire même nos cercles bibliques, d'essayer d'expliquer le texte. Mais c'est quand même difficile parce qu'on se trouve toujours dans cette problématique. Si Abraham, il est né en. Si Abraham le fait le dater autour de l'année 1000 et quelque chose, si Moïse a rédigé le Pentateuque, donc pour nous en tant que professeurs de théologie biblique, c'est difficile à répondre à ces questions, plutôt de les faire passer dans le milieu orthodoxe. Parce qu'on a toujours cette dimension que ceux qui les pères ont écrit, si les pères étaient convaincus que Moïse était le rédacteur du Pentateuque, donc maintenant, comment on peut contracter l'empereur de l'Église, donc c'est un peu difficile. Donc, voilà.
Ça, c'est votre problème. Oui. Bien, voilà, nous avons terminé. Je voudrais terminer sur une petite note, puisque nous sommes invités ici par un groupe écuménique. Je voudrais dire d'une part que la Tob, depuis le début, a fait l'objet de l'appui tant des autorités catholiques, protestantes qu'orthodoxes. Avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Deuxièmement, vous voyez bien que, et la discussion avec Stéphane l'a montré, il y a des compromis. Il a fallu faire des compromis. Dans les traductions, dans les notes, c'est-à-dire qu'à un certain moment donné, Il y a des gens d'une confession qui ont mis leur mouchoir sur leurs idées pour permettre au travail d'avancer. Voilà. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, la tobe, c'est non seulement une traduction faite avec catholiques, protestants, orthodoxes, et j'allais dire, c'est peut-être uniquement maintenant, en 2010, qu'elle est véritablement écuménique. Parce que jusqu'à présent, j'allais dire, oui, c'était symbolique la participation orthodoxe. Depuis 2006, elle est plus effective. Alors, il faudrait encore d'autres années pour qu'il y ait une véritable parité entre catholiques, protestants et orthodoxes, mais je pense que c'est en 2010, vous vous rendez compte, presque 50 ans après le début, qu'elle est véritablement écuménique. Enfin, quand je dis une édition, c'est qu'il existe de par le monde beaucoup de traductions communes, catholiques, protestants, orthodoxes, ou la plupart du temps d'ailleurs, catholiques et protestants. Mais il n'existe pas au monde une telle édition écuménique, dans laquelle non seulement la traduction, mais les introductions, les cartes, les notes et les schémas sont communs et sur lesquels on s'est mis d'accord. De ce point de vue-là, je crois que la tobe dans l'écuménisme reste un modèle, et alors on peut le prendre positivement ou négativement. Négativement, on peut se dire, comment se fait-il que 50 ans après le début, il n'y ait qu'un seul prototype ? Pas uniquement d'une traduction, mais d'une édition écuménique. Elle reste un prototype. Et c'est peut-être désolant. Mais en même temps, on peut se réjouir parce que on a